bienvenue au Polysécur épisode spécial. C'est on commence déjà en riant. Je suis Imtaris. Je suis avec Marina et Ingrid. Est-ce que vous allez bien?
Bonsoir. Oui, ça va bien. Et toi, Marina?
Est-ce que Marina va s'en sortir?
Bonsoir.
C'est parfait, elle s'en sort. Donc, cette fois-ci, on va aborder le sujet des IA, des intelligences artificielles. Dans lequel on a plein de débats, on est dans le momentum où ChatGPT vient de se faire bannir d'Italie. Il y a plein de questionnements qui se placent à ce niveau-là. Certaines personnes pensent qu'on devrait le réglementer comme l'arme nucléaire, les effets sur les humains. Il y aurait des gens qui se seraient suicidés suite à des conversations ou des conversations troublantes. Il y a eu l'ingénieur il y a un an, l'ingénieur de Google qui s'est fait congédier parce qu'il était sur le point de penser que c'était un être vivant qui avait autonomie. Donc, on est vraiment dans un cycle très intéressant et ça s'accorde bien avec votre projet de recherche qui, justement, traite des facteurs humains à travers la technologie et comment ça s'articule parce qu'on a un composant technologique très fort qui aura des impacts humains très importants. Fait que je vous laisse glisser là-dessus et on avance.
Eh bien, merci pour le choix de ce sujet. Donc, j'espère que je ne serai pas trop artificielle dans mon intelligence sur ce débat du jour. Mais en tout cas, je te rejoins sur la problématique et les dangers des usages des intelligences artificielles parce que déjà, première chose, c'est qu'on nous explique qu'on est le maillon faible. Donc déjà, à la base, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir savoir gérer la situation. Ensuite, donc, les stratégies de communication qui nous expliquent qu'on est vulnérable, qu'on est faible et qu'on ne saura pas gérer. Ensuite, c'est surtout les problèmes aussi de méconnaissance du fonctionnement de la technologie, parce qu'il n'y a pas un type d'IA, il y a plusieurs types d'IA. Donc là aussi, quelle est sa finalité? Est-ce qu'elle doit être là pour me suppléer, donc me remplacer? Est-ce qu'elle est là pour m'assister? Est-ce qu'elle est là pour m'aider? Donc dans la relation que je dois avoir avec cette intelligence artificielle, si je ne suis pas bien informée, et là on en parlera des conditions générales d'utilisation, hein. Ouais, je sais, la juriste refait toujours un petit peu surface, mais c'est-à-dire que j'ai tellement lu d'absurdité dans les conditions générales d'utilisation que finalement, en fait, on ne pouvait pas utiliser et avoir un usage normal parce qu'en fait, on ne nous disait pas tout, parce qu'on me cachait des choses, parce que peut-être même le concepteur ne se rendait pas compte de l'intégralité des usages possibles de son IA. Donc finalement, la méconnaissance du sujet et du champ des possibles et même du détournement même de l'usage de l'intelligence artificielle pose un vrai problème. Sinon, un de mes dadas, tu le sais, c'est la santé et c'est les intelligences artificielles thérapeutiques. Ces intelligences artificielles qui sont considérées comme des médicaments. Et en fait, le concepteur a tendance à croire qu'on va utiliser l'IA comme il a prévu qu'on l'utilise. Mais en même temps, j'ai des ingénieuses ingénieurs qui m'expliquent que l'IA étant une formule mathématique, elle n'est pas protégeable et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ces ingénieux ingénieurs vont réutiliser des algorithmes thérapeutiques, mais sans savoir quelles seraient les conséquences sur le cerveau humain. Mais détourner un médicament de son usage normal, on est bien d'accord, c'est dangereux. Un médicament, j'ai pas le droit d'en faire autre chose, un autre usage que ce pour quoi il a été prescrit.
Puis il a été testé largement sur des populations animales, largement sur des populations humaines, avant d'être généralement utilisé. On l'a vu d'ailleurs avec le COVID, tout le chemin que ça a dû suivre avant que le vaccin puisse être utilisé sur des humains. Puis encore là, on a probablement escamoté certaines étapes à certains égards. L'IA est de même puissance, puis il est fait pour œuvrer avec l'humain. Puis c'est là où ça devient troublant. On a déjà qu'on a de la difficulté avec les médias sociaux dans lesquels on constate qu'ils sont très, très orientés sur la manipulation de l'humain pour l'attirer à la consommation excessive de ces plateformes-là. On a un IA qui va devenir exactement dans le même genre de formulation qui va être conçu pour un usage de dépendance.
Mais on est bien d'accord. Ça veut dire que l'IA, on la conçoit pour un usage prédéterminé. Et qu'en fait, elle va être paramétrée pour cet usage prédéterminé. Mais maintenant, si je détourne de ce qui a été prévu par le concepteur, finalement, je peux avoir des dommages collatéraux que je n'ai même pas encore anticipés, parce que ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été pensé. Et finalement, ces dommages collatéraux, comment je les prends en compte? Et aujourd'hui, on n'est même pas encore capable de mesurer l'ampleur des possibilités et de la puissance même que pourrait avoir un algorithme. Donc, c'est là où il est important de pouvoir un petit peu réfléchir de manière globale. Et en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est que encore beaucoup de projets d'IA sont très technocentrés dans la conception et dans la réflexion. Donc, en fait, c'est le côté performance qui prime sur tout. Et finalement, bah, OK, elle fonctionne très bien, mais elle fonctionne très bien statistiquement, mathématiquement. Mais ça ne veut pas dire que moi, sur ma décision, avec, enfin, il y a un rapport à l'humain dans une prise de décision. Dès lors qu'on est sur de l'IA et la décision, pas pour de l'IA et j'automatise une tâche et je remplace quelqu'un. Cette IA qui doit accompagner une décision humaine où il y a un rapport au conscient, en fait, à ce qui fait que l'humain est humain et qu'une décision est humaine, l'IA, elle n'est pas humaine.
Non.
Donc finalement, elle ne peut pas avoir la qualité décisionnelle d'un humain. Et en fait, l'humain, avec ses fragilités, avec ses forces, il a une capacité d'adaptation et de prise en compte de son environnement plus puissant que les paramétrages de l'IA qui vont manquer d'adaptabilité, en tout cas aujourd'hui.
Oui, et puis dans certains égards, c'est ce qu'on pourrait nommer la conscience, l'espèce d'état que l'humain dispose, la plupart des humains disposent pour être capable de vivre avec les autres humains.
Je t'assure, il y en a qui n'ont pas de conscience. Hein. Si on sent conscience n'est que ruine de l'âme, regarde certains ingénieurs, ils n'ont pas de conscience. Hein.
Oui, ben eux œuvrent dans leur vase clos, ils vivent dans leur univers qui est non socialement acceptable.
Ouais, ben, il faut qu'ils sortent de leur grotte pour prendre conscience des humains, de l'environnement et avoir peut-être une impression et une analyse sociologique des conséquences de leurs IA. Je sais pas, un peu plus de SHS.
Comment tu peux, dans ces cas-là et dans ce contexte, comment tu peux justement faire prendre conscience à l'humain de tout cela, dans la mesure où on est aussi dans un contexte d'hyperaccélération des technologies, des outils, de l'information, et finalement, du jour au lendemain, l'humain se retrouve avec une quantité de tech, d'outils, il n'a pas été préparé à tout ça, et finalement, on met ça dans les mains d'un humain, sans sensibilisation, sans prévention, et ça devient... Finalement, c'est comme un jouet. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester un jouet, on pose des questions à l'IA, on s'amuse, on crée des scénarios,
on
pose des questions.
Un code de, comme le code de IA. Tu vas passer un permis de pouvoir utiliser une IA comme le permis de conduire. Mm-hmm. Il y aura un agent qui dira qui dit qu'il peut utiliser l'IA et qui peut pas utiliser l'IA. Comme ça, en fait, ce sera bien. Non, toi, t'es trop teubé. Pas le droit d'utiliser l'IA. Tu vas me la rendre débile. Non, mais c'est vrai. Il y a certains.
Dans les faits, est-ce que ça serait.
Non, mais t'imagines les usages. ChatGPT. Pain au chocolat ou chocolatine. Nous, le ChatGPT français, il est super teubé. Hein. Quand on a vu le niveau des premières questions qui ont été posées, c'était pas le puits des sciences. Hein. Bon, après, il y a toutes les copies des licences et des maîtrises et des masters. Là aussi, là, les étudiants se sont fait plaisir.
Non, mais moi, je me pose la question, pourquoi, en fait, je pense que certains concepteurs peuvent peut-être avoir... Peut-être ont cette prise de conscience, justement, que l'IA est dangereuse. Alors, pourquoi on continue, finalement, continue-t-on à mettre ce type d'outils dans les mains de populations?
Chaque technologie est dangereuse. L'automobile était dangereuse quand elle a été inventée. Toute avancée est dangereuse. Là, c'est l'encadrement et la portée de cette technologie-là qui est peut-être hors de contrôle parce que l'automobile était plus lente à se propager. La propagande a été utilisée. On a toujours développé, on a toujours avancé ce genre de choses-là.
Mais on le sait aujourd'hui.
Oui, mais le tabac tue et on fume.
Oui, entre autres. Donc, on a toujours se retrouvé dans des situations où est-ce qu'on arrête l'avancement ou on doit...
Non, on ne doit pas l'arrêter l'avancement, on doit prévenir, on doit sensibiliser.
On doit encadrer. Ça, c'est le rôle du législateur. De venir justement encadrer les usages, de venir assurer qu'il n'y a pas de déviation.
Mais pour réguler, il faut avoir conscience des conséquences de l'usage. C'est-à-dire que tant qu'on ne savait pas quelles seraient les conséquences des usages, il était délicat de réguler. La régulation vient malheureusement après coup. Et en fait, il y a toujours les précurseurs et on va avoir des dégâts. On va avoir les vulnérabilités, qu'on a pu amplifier les choses, où finalement, toutes ces... Là aussi, c'est que les IA, je suis désolée pour mes collègues chercheurs, mais à un moment donné, de dire, tiens, je vais faire un article scientifique sur l'IA, donc je vais publier l'IA, je vais publier les données d'entrée, mais en fait, derrière, je donne des clés de manipulation de la population. Donc, à un moment donné aussi, c'est jusqu'où va-t-on dans le partage de la connaissance ? Parce que d'un autre côté, partager la programmation d'une IA, c'est aussi le meilleur moyen de la sécuriser, puisque je fais appel à la communauté pour protéger ses propres failles. Mais là, on parle bien des failles techniques de l'IA. Maintenant, comment gère-t-on les failles de l'usage de l'IA ?
On a des problèmes même plus fondamentaux que ça. Si, de toute façon, le législateur ne s'est pas réveillé encore, mais on regarde ce que les médias sociaux sont rendus maintenant. Toute cette déviation très importante et cette capacité-là à manipuler les masses, qui sont quand même très présentes sans IA à l'heure actuelle, ou avec un usage mineur par rapport à ce qu'on voit avec ChatGPT, par exemple, c'est déjà le cas. Les Russes l'ont abondamment utilisé pour faire bouger les élections aux États-Unis, par exemple. Puis c'est des cas documentés maintenant, là, c'est plus une illusion. On est déjà en retard. Puis là, on parle de l'IA qui s'en vient quand on n'a même pas réglé les problèmes des médias sociaux qui sont encore beaucoup plus fondamentaux en termes de problèmes, parce que les médias sociaux sont faits là pour nous rendre captifs de cet environnement-là. L'intelligence artificielle au sens de ChatGPT n'est pas là pour nous rendre captifs. C'est juste un outil qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Fait qu'on n'est pas dans le même
là,
rapport.
Là, on en revient encore à l'esprit critique et à ces sociétés de moutons, en fait, où on nous encourage à ne pas nous poser de questions et à prendre tel quel en disant « T'inquiète, ça fonctionne. L'essentiel, c'est que ça marche, mais on ne nous explique pas comment ça fonctionne. »
Mais c'est un des énormes problèmes que les gens ne saisissent pas qu'est-ce que c'est. Un, ceux qui sont inquiets, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et ceux qui s'emballent puis vont croire démesurément ce qui en sort sont également comprennent pas comment ça fonctionne. Ceux qui se laissent emballer, comme l'ingénieur de Google il y a un an qui pensait que c'était rendu humain, c'est juste parce qu'il s'est détaché du fait que ce n'était qu'un miroir. Ce n'est au final qu'un miroir, cet outil-là.
Ça veut dire que plus leur ego est démesuré, et plus l'IA va être foireuse.
Il est fort probable que oui.
On est dans la merde.
Oh oui.
C'est pour ça qu'en fait, peut-être que nos ingénieurs, des fois, devraient échanger davantage avec des sociologues, des philosophes. Parce que, en plus, c'est bien, c'est la période de Pâques, c'est la poule qui fait le zop. Blague de merde. Hashtag. Je fais exprès pour perturber Marina, parce qu'en fait, on est en présentiel.
Ça a très bien fonctionné, d'ailleurs. Idrine est très douée pour ça, mais...
Non, mais parce qu'en fait, on parle d'IA et de stratégie de déstabilisation. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien en fait faire mimus, parce que comme ça, en même temps, j'observe mes petits camarades. C'est des sujets d'études. Sujet d'études ou objet d'études ? Quel est l'angle de vue ?
Je suis un objet ?
Ah bah, de toute façon, avec les IA, des fois, ils peuvent nous transformer. Hein. On devient l'objet, puisque finalement, le concepteur récupère toutes nos données et les exploite à notre insu.
Il y a tout cet aspect-là aussi des choses qui est méconnu, comment le IA est entraîné, comment les choses sont utilisées, qu'est-ce qu'il fait. Puis de toute façon, je t'ai déjà envoyé des articles sur le fait que les données utilisées pour l'entraîner vont y impliquer des biais. Fait que du moment que tu l'entraînes avec des données initiales qui sont toxiques, ben le IA va se transformer en objet toxique. Inévitablement, il va transformer ces biais-là, mais plus les données non randomisées au début, plus on va orienter, plus les effets vont être importants, ce qui va suivre. Fait que, est-ce qu'on est sûr que ChatGPT est entraîné de façon correcte et pour éviter les biais, est-ce qu'on le sait, ça? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui l'a entraîné? Qu'est-ce qui l'a amené là?
Mais l'humain qui est influencé par l'IA, est-ce qu'il devient un objet de droit ou est-ce qu'il est encore sujet de droit puisque finalement, il a perdu son discernement puisque finalement, c'est l'IA qui l'influence. Et comme il n'a plus de discernement, il n'a plus de capacité juridique. En tout cas, de notre côté, pour nous... S'il n'a plus conscience de l'usage et des conséquences de s'il ne comprend pas comment fonctionne l'algorithme, comment est arrivé au résultat et que ça va conditionner son comportement et son action, s'il n'a pas conscience de ce qui s'est passé, il n'a pas de discernement et il n'a pas de capacité, puisque la conscience, c'est la base du discernement et de la capacité juridique.
Mais dans ce contexte-là, si on utilise la propagande comme étant justement un usage d'un humain qui va justement manipuler les autres humains pour les amener ailleurs, est-ce qu'on se retrouve dans le même concept ou le fait que si je me suis fait manipuler, donc j'ai perdu mon agence, puis donc je suis complètement je dois être sur tutelle?
C'est là où moi je passe, est-ce que je suis un décérébré ou est-ce qu'à un moment donné j'ai un point d'orgueil et j'essaye de garder la maîtrise des événements que je devrais assumer? Ou est-ce qu'on reconnaît officiellement que le concepteur et donc le fournisseur de l'algorithme est responsable? Mais dans ce cas, il est responsable aussi de la bêtise des utilisateurs. Et donc là aussi, c'est un peu abusif. Donc où est l'équilibre?
Bonne question. Très bonne question, parce que les humains se manipulent entre eux depuis des siècles, et ce n'était pas autre que dans les cas où on a reçu un ordre, puis là on se retrouve à déresponsabiliser parce qu'on a reçu un ordre qui n'était pas légal. D'un point de vue propagande, je n'ai pas vu vraiment d'éléments qui nous permettent de...
T'es en train de dire que l'IA, c'est une matahari?
L'IA, c'est de la propagande. C'est l'usage massif. Ouais. C'est l'équivalent de la propagande. C'est-à-dire que ça nous fait croire, sauf que c'est individualisé, personnalisé à chacun d'entre nous parce qu'elle va s'adapter à notre situation. Donc, on a une propagande qui est adaptée pour chaque personne. Donc, on est dans un contexte où, dans le fond, ça devient une arme en ce sens où... Mais ça demande la propagande comme les Allemands l'avaient utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Pas plus, pas moins. Puis les gens se sont laissés embarquer là-dedans. Il y a de la croyance qui est allée autour de ça. Puis même de la mythologie, on va sur le bord de voir des dieux apparaître dans ces univers-là. Parce que ça vient chercher quelque chose dans l'être humain qu'il ne maîtrise pas. Et autant immémoriaux, on a créé les religions sur la base qu'on ne connaît pas notre environnement. Le IA va nous ramener dans une chose où on ne reconnaît plus notre environnement. On va commencer à recréer des religions, de nouvelles religions, de nouveaux seigneurs, de nouvelles hiérarchies, de nouvelles choses sur la base que cet objet-là, il est incompréhensible pour la majorité des gens. Puis je suis même pas sûr que leurs concepteurs comprennent ce qu'il fait de toute façon en plus. Fait qu'on est dans un état où c'est assez épeurant, somme toute, là, ce qui s'en vient.
C'est-à-dire qu'on est encore, on est encore dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'il y a encore l'euphorie du champ des possibles parce qu'on découvre des capacités techniques qu'on soupçonnait même pas. Et la technologie, elle évolue. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'analyser, parce que ça va tellement vite, comme le disait Marina, on n'a même plus le temps d'analyser les conséquences. Et en fait, on n'a pas le temps de s'adapter à la technologie qui vient d'être développée, qu'on en a encore une plus puissante qui arrive. Donc, si on ne veut pas la subir, à un moment donné, comme pour toute situation, même hors technologie, si je ne veux plus subir, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que je dois marquer un temps de pause, je dois réfléchir, je dois prendre du recul, je dois m'éduquer aussi. Donc, l'éducation est primordiale. Parce que moi, quand je vois mes pauvres petits piou-piou qui, premier réflexe, quand on leur dit « Allez, devoir sur table, je prends ChatGPT », alors que on utilise l'usage d'Internet en disant « Mais tous les jours dans votre quotidien, vous aurez Internet. » Oui, mais à un moment donné, le gars, il me dit « Moi, je vais utiliser ChatGPT ». Je fais « Tu sais qu'à ne plus faire quelque chose, on perd les capacités cognitives associées. Si jamais tu ne fais plus un raisonnement, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu sauras encore raisonner par toi-même ?» Donc, en fait, à utiliser des IA et à ne plus faire les efforts cognitifs pour la réflexion, il n'y a qu'à voir le GPS et la spatialisation. Aujourd'hui, le sens de l'orientation, le vieux port de Marseille dit merci au GPS. Il n'a jamais vu autant de voitures. Mais bon, à un moment donné, c'est bien là. La problématique, c'est je perds la maîtrise même. C'est-à-dire que même sans technologie, je ne serais même plus capable de faire. On va devenir des gros teubés.
Ça va...
À manger des donuts. Tout.
Ça va nécessairement atrophier notre capacité. C'est comme dans le fond un muscle, fait qu'on va perdre la capacité de faire quelque chose. Puis c'est ça aussi en même temps qui va différencier, qui va être le nouveau clivage social, c'est que les gens qui vont être capables de l'utiliser, qui n'auront pas perdu leur sens critique ou qui auront été heureusement mis dans un environnement qui va leur aider à développer le sens critique, vont avoir des outils dans les mains qui vont être surpuissants par rapport à tous ceux qui n'ont pas été mis dans un contexte où ils devaient se servir de leur esprit critique. Donc, eux vont se faire complètement écrabouiller dans le processus, autant sur le marché de l'emploi, autant dans la vie sociale, dans tout ce qui en est, parce que sinon, moi, je vais utiliser, ça va multiplier mes capacités. Mais si ça multiplie mes capacités parce que j'ai un esprit critique, ça va bien. Mais si ça multiplie mes capacités, mais j'ai pas d'esprit critique, c'est la course vers le fond. Déjà que les télé-réalités, déjà que les réseaux sociaux sont une course vers le fond, ça va multiplier le problème.
Non, et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que nous, on fait encore partie d'une génération qui avons connu l'avant tout Internet et le tout Internet. Donc, en fait, déjà, on a plus d'esprit critique que nos chères nouvelles générations qui n'ont connu que le smartphone et Internet, voilà, et même à l'école maintenant, les recherches sont sur Internet. Moi, les recherches étaient dans des livres. Donc, en fait, déjà, à la base, la fiabilité de la source, c'était parce que si le livre était à la bibliothèque, c'est que c'était fiable. Déjà, à la base, ça évitait que je dise des conneries parce que sur Internet, il y a du lard et du cochon, hein, tout n'est pas vérité. Enfin, tout dépend de la qualité, de la fiabilité de la source. Et là, je pense à tous ceux qui suivent bêtement les influenceurs.
Et là, tu viens de dire quelque chose justement de très intéressant et de très pertinent par rapport à la fiabilité de la
source.
Parce
qu'avant, je disais que des conneries.
Non, je n'ai pas dit ça. Je rebondis par rapport à la fiabilité de la source, justement. De cette notion de fiabilité, et parce qu'on parle d'IA et d'usage par rapport justement aux conséquences de l'IA, mais pour moi, en tout cas, selon moi, tout est arrivé avec l'apparition des réseaux sociaux. À quel moment il y a eu une barrière, en fait, il y a eu une notice d'usage, justement, des réseaux sociaux. Pour moi, l'IA, c'est finalement la continuité de tout ce non-encadrement qu'il y a eu avec l'apparition des réseaux sociaux, avec justement le fait de prendre une information et de ne pas aller forcément contrôler la fiabilité d'une information. On est en plein dedans, sauf que là, on est dans un contexte d'hyper-accélération, d'hyper plein de choses. Et c'est...
Oui, mais puis je rebondis là-dessus, puis je trouve ça intéressant. Moi, je trouve moi que les réseaux sociaux, parce que ça me touche moins, mais je l'ai vraiment vécu au niveau de la guerre en Ukraine, où c'est devenu... Si on n'avait pas deux sources pour corroborer, ça voulait juste rien dire. COVID, c'était pas si pire parce qu'on était capable de déceler les bonnes sources et de capable de. Puis là, ça devient de sélectionner la bonne source.
Qui était capable de le faire?
Non, mais je n'ai pas dit qui. Ouais, je n'ai pas marqué dans le qui encore. J'ai remarqué. Là, je parle de ma réalité. Ensuite, on projettera à l'autre. Mais COVID, c'était facile de réussir à trouver relativement si on ne s'abreuve pas sur Facebook. Pardon, ça s'abreuve dans des sources fiables, d'avoir la bonne information. Mais la guerre en Ukraine est problématique parce que même les sources fiables ne peuvent plus être considérées comme fiables parce qu'eux-mêmes ne savent même plus la fiabilité de l'information parce qu'on est dans un monde de propagande extrême parce que la Russie est un pays développé une très grande expertise dans cet univers-là. Donc, ça a été le moment, le choc pour moi où je ne peux plus rien voir, ne peux plus rien affirmer sur la guerre en Ukraine tant que je n'avais pas au moins deux sources et qui ne se répétaient pas, parce que les sources vont se répéter. Il faut toujours deux sources indépendantes qui vont être capables de corroborer ça. Fait que pour moi, la coupure est là. Et là, maintenant, je suis dans un univers où j'ai passé du fait que tout ce que j'affirme maintenant doit être corroboré par deux sources. Peu importe les sujets. On parle de la guerre en Ukraine, c'est une chose. Mais maintenant, c'est de plus en plus dans cet univers-là où je dois recorroborer de deux éléments. Et là, comment ça se répercute chez les autres? Ça, c'est un défi, c'est autre chose. ChatGPT, déjà, puis je l'utilise. Je ne me fie pas à ce qui sort là. Généralement, je dois réécrire entre 25 et 50 % de ce qui sort parce que c'est inexact, soit c'est mal tourné, soit il a fait de l'amalgame étrange, soit il a fait des choses comme ça. Mais statistiquement, c'est correct. Il a fait ça comme ça. Mais la réalité, c'est que quand on ramène, puis parce que j'ai mon travail, c'est d'analyser. Donc, c'est normal, j'analyse ce qui me sort là comme j'analyse n'importe quoi d'autre. Et de mon expérience, de ma connaissance, de ma capacité d'analyse, de mon esprit critique et blablabla, tout ce qui s'est développé pendant tant d'années, je suis capable de faire quelque chose. Mais là, après ça, qui d'autre est capable de faire ce genre de choses-là? Puis pour moi, le pivot pour les sources de corroboration, pour moi, sont arrivés en Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Avant ça, je ne sentais pas le besoin de le faire. Parce que, minimalement, si je ne m'abreuvais pas dans Facebook, je suis pas mal sûr que si je m'abreuvais dans les journaux conventionnels, j'avais un bon niveau de fiabilité fondamentale qui était garanti, mais même maintenant, comme on parlait de la bibliothèque, maintenant, on ne peut plus se fier à la bibliothèque. On ne peut plus se fier à ce genre de choses. On regarde au moment où les Américains sont en train de faire, ils font disparaître des livres. Comme on a déjà vécu dans certaines autres époques, on t'arrête de retourner à brûler des livres. Fait que dans ce moment-là, comment tu fais pour te fier sur une source fiable quand les livres sont qualifiés comme étant méchants, comme étant non fiables? Puis là, on est propulsé dans la technologie en plus, puis on a vu aucune capacité de discernement du réel. C'est difficile. Là, je suis un peu éduqué dans ce univers-là, puis je commence à avoir de la misère à m'y retrouver. J'imagine ceux qui sont plus âgés que moi, c'est foutu, là.
Mais c'est que surtout, en fait, il y en a beaucoup maintenant qui se posent même plus ces questions. C'est-à-dire qu'ils prennent l'information qu'on leur donne à la béquille et ils font plus l'effort. Et c'est là où ça devient critique pour moi sur un plan sociétal. C'est-à-dire que, en gros, c'est comment la population, enfin, on le voit aussi avec ce qui se passe en Afrique, c'est comment on peut manipuler la masse pour retourner et s'en servir dans les jeux de puissance entre États. Donc, c'est le côté être un pion qui est assez déstabilisant parce qu'on est complètement instrumentalisé. Quand je disais, est-ce que je suis sujet de droit ou est-ce que je suis objet de droit, je suis désolée, mais maintenant, comme tout le monde n'est pas bienveillant, la malveillance qu'il y a derrière, eh ben les malveillants font que je deviens un objet de droit. Et puisque je suis un pion dans l'histoire. Alors que derrière, comment je fais pour rester sujet de droit? Pour rester sujet de droit, je dois garder mon discernement, ça veut dire mon esprit critique et mon autonomie décisionnelle. Donc avec un niveau de maîtrise de la situation. Et donc ça passe aussi par comprendre comment fonctionnent ces technologies pour qu'à un moment donné, je puisse aussi me dire, mais c'est pas normal ce résultat-là dans le contexte, dans l'environnement. C'est-à-dire que moi aussi, je dois être capable de comprendre et de pouvoir interagir avec mon environnement et de pouvoir capter et sentir mon environnement pour dire, mais en fait, la technologie là, qui est censée me faire gagner du temps, mais elle me dit une connerie. Donc en fait, en gros, elle va me manipuler. Mais comme un médicament qui va être détourné de son usage, où certains vont prendre des opiacés, non pas parce qu'il y a de la douleur, mais juste parce que ça les fait planer. Et détourné d'un usage, c'est là que le danger apparaît.
J'irais plus avec un collègue malveillant qu'avec un médicament dans ce contexte-là, parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui interagit, une interaction, pas d'une interaction d'un médicament sur à effet unique, donc qui vient avoir effet sur moi, mais quelqu'un qui va...
Plusieurs médicaments avec des interactions dangereuses qui t'amplifient, puis derrière, tu te fais ta petite omelette au champi par-dessus. Nickel.
Mais
tu
n'as pas de dialogue avec ton médicament. Tu vas avoir un dialogue avec un IA. Comme tu peux avoir un dialogue avec un collègue qui est malveillant. Donc, tu te fais face à un collègue qui, dans ce cas-ci, puis c'est un des problèmes que les gens qui tombent qui flippent, qui deviennent un peu fous avec l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils commencent à percevoir. Avoir l'illusion que c'est un humain qui est en arrière, qu'en effet, il n'y a pas d'humain. Là. C'est vraiment, ça demeure une machine froide, qui ne fait que répéter stupidement des choses qu'elle a apprises avec aucune conscience. Fait qu'on est dans un contexte de dialogue. Donc, dans ce moment qu'on voit à ce moment-là, puis moi, je l'interprète plus qu'un collègue hostile ou un collègue...
Mais regarde la détresse humaine. On en parlait au début quand on préparait cette émission. Mais comment certains vont tomber amoureux d'un personnage virtuel et projeter toute une vie, notamment on a vu ça au Japon, où les gens se sentent seuls, il y a un isolement. Et en fait, c'est une vulnérabilité où au début, où on pense pouvoir faire quelque chose de bienveillant en disant toi qui te sens seul, on va créer un personnage virtuel avec qui tu pourras échanger, avec qui tu vas pouvoir partager, vivre des choses. Avec ton personnage virtuel, sauf que derrière, ils ont tellement projeté sur lui que finalement, même si au départ, c'était pas malveillant, c'est devenu malveillant du fait de qu'est-ce que ça reporte sociétalement. C'est-à-dire que c'est des gens finalement qui se désociabilisent totalement pour vivre avec leur personnage virtuel et ils deviennent...
C'est le même principe que les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui sont en manque d'interaction, ils sont en manque de lien social. Donc finalement, l'IA, elle vient leur fournir ça, elle vient leur apporter ça. Ce que faisaient déjà finalement les réseaux sociaux quelque part avec la possibilité d'interagir, de commenter, de réagir aussi à une publication. Et on peut le voir aussi quand on observe certaines publications je prends l'exemple de Facebook, par exemple. On peut voir aussi les différentes formes d'interaction, les différentes manières
d'exploitation de nos émotions de maintenant, parce qu'avec les likes
et les émotions. Et on voit certaines personnes s'agacer très vite aussi, ou qui montent très vite dans les tours. Et on peut ressentir aussi certaines personnes qui se sentent peut-être seules et qui ont vraiment ce besoin de... Ben voilà, qu'il y a vraiment ce manque d'interaction et de lien social. Les réseaux sociaux ont amené ça, ont permis aussi cela pour certaines personnes qui se sentaient en marge et qui se sentaient complètement déconnectées de la société. L'IA vient, selon moi, les conforter quelque part dans un univers complètement, mais...
Oui, puis de toute façon, les malveillants l'ont déjà vu, tu sais, ce qu'on appelle le pork butchering, là, du genre du... je sais pas comment le traduire en français, genre engrosser un porc pour le bouffer. Là. Les malveillants, c'est ce qu'ils font présentement. Oui, non, mais la traduction est très libre. Mais c'est ce que les malveillants font, c'est qu'ils vont entretenir pendant 1, 2, 3 semaines une conversation fictive avec quelqu'un pour ensuite le vidéo complet.
Oui.
Comme ils visseraient le cochon au complet. Fait que là, ils l'ont engraissé, puis ils l'ont ensuite. Il y a des gens qui sont complètement détruits sur la seule et sur une base que les gens ont besoin de connexion, qu'ils sont en manque de connexion. J'en ai vu, pas qui sont dans mon entourage, mais dans un contexte de travail où il y a une collègue dans ce cas-ci qui s'est fait avoir parce qu'elle était seule, puis là, la personne est en détresse, puis elle a versé, puis compte. Tout le monde l'avertissait de ne pas le faire, mais malgré ça, elle est tombée parce qu'elle avait besoin de connexion.
Et il y a le contexte, la situation aussi, finalement. C'est une question de contexte et de situation aussi. Ce besoin, vraiment, de se sentir connecté à d'autres personnes. Et c'est ce manque de lien social qui... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je vais le dire, qui fait complètement disjoncter certaines personnes aussi. Et l'IA vient quelque part soutenir et accompagner certaines personnes, sauf que les personnes ne sont pas du tout sensibilisées aux conséquences de l'IA et finalement à certains effets pervers aussi.
Oui, ça amplifie les vulnérabilités humaines.
Oui.
Parce qu'en même temps, l'humain n'a pas conscience de ce qui se passe et de ce qui se trame. Et donc, on en revient à ce qu'on disait par rapport à nos travaux de recherche, c'est que déjà le point de départ pour toute action, c'est déjà de prendre conscience.
Oui.
Et malheureusement, ce qui est triste, c'est que la prise de conscience passe aussi par l'observation des usages. Et donc, malheureusement, il y aura toujours des victimes dans l'histoire parce que bah, il y a un effet d'avancée des technologies. C'est vrai qu'elles peuvent nous offrir de super belles choses, mais d'un autre côté... Il faut qu'on voit parce que comme elles sont utilisées par des humains, elles peuvent être utilisées à bon escient, mais aussi de manière malveillante. Et tant qu'on n'a pas pu observer tous les cas d'usage, bienveillant comme malveillant, déjà, il sera difficile de réguler. Mais d'un autre côté, c'est qu'il sera aussi difficile de prendre conscience de la menace même qu'il représente. Et tant que ça n'est pas possible, les plans d'action de modération ou autres vont être difficiles à réfléchir aussi.
Ben, jusqu'à présent, aucun qui a été réfléchi en amont. Sont toutes réfléchies a posteriori. Et ils mettent des humains sur le chose pour mettre des garde-fous. La conception des garde-fous se fait a posteriori par des humains qui lisent ce genre de choses-là. Puis je pense que c'est dans le cas de ChatGPT que c'était ça. C'est au Kenya. Fait qu'ils embauchent des gens à un salaire de misère qui lisent des cochonneries à longueur de journée. Puis au bout de 3 mois, ils tombent en choc post-traumatique parce qu'ils ont explosé. Puis aucun humain devrait subir ce genre de conneries-là. Fait que les garde-fous sont mis par des humains encore à l'heure actuelle. La machine n'est même pas capable de mettre des garde-fous par elle-même.
C'est bien pour ça que je te dis qu'il faut, dans la conception même, et là, moi, je vois, quand on me pose la question, je dis, pourquoi pas les marchés publics et à partir du moment où ça vient des administrations et de l'autorité publique, c'est de mettre des clauses, c'est-à-dire de dire, je veux que dans la conception de mon algorithme ou de la technologie que je vais utiliser, j'impose que dans l'équipe de conception, 30% du budget minimum soit consacré aux sciences humaines et sociales pour que je sache quand même et que je prenne des garanties sur la fiabilité même de la technologie. Parce que l'air de rien, les sciences humaines et sociales, elles ne vont pas pouvoir couvrir et anticiper tous les risques, mais elles vont quand même en atténuer un certain nombre. Et donc, quand on fait une analyse de risque par rapport à l'utilisation d'une technologie, quand on la conçoit, Le problème, c'est qu'on intervient et on fait « Bon, vous pouvez faire un petit point cyber, ou un petit point, parce que cyber au sens sécurité globale, c'est-à-dire autant les mesures organisationnelles que les mesures techniques. » Et en fait, ça arrive à la fin du process, alors qu'on n'arrête pas de dire « by design, by design, by design ». Juste, déjà à la base, ce qui peut être très drôle, c'est qu'on pourrait très bien dire à un porteur de projet, tu vas te confronter à des hackers de ton projet. Mais et là, en fait, on va lui hacker son projet. Et derrière, il va voir quelles sont les capacités même de détournement de son idée.
Ça a des limites. ChatGPT-4 l'a en fait. Puis encore là, on voit que ça n'a pas mené à aucun résultat probant parce qu'ils ne comprennent pas encore comment la technologie fonctionne. Fait qu'on crée un monstre qu'ils ne maîtrisent pas. Puis c'est une des choses les plus épeurantes de ça. C'est qu'ils ne savent pas où ça peut aller. Parce que de tester ce genre de projet.
Oui, mais en fait, parce qu'il faudrait que de lui-même, il dise « Je ne répondrai pas à ta question parce que la réflexion et la recherche que pose la question de la personne malveillante qui veut détourner l'outil, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui hackent l'outil. »
Elle n'a pas de conscience et donc pas de contexte. Fait que jamais l'IA n'est pas capable de voir le geste malveillant parce que ça n'existe pas. Mathématiquement.
Les bisounours.
Ben oui, mais ça n'existe pas.
Allez, Kalinours. Pardon, j'adapte.
Oui, c'est ça, mais c'est parfait. T'es rendu bilingue. Tu parles des deux côtés de l'Atlantique.
Voilà, ça y est.
Non, mais c'est drôle parce qu'en France, c'est des bisous. Nous autres, c'est des câlins. Oui, on n'est pas sur la même base. Nous autres, on fera les câlins. Mais on a besoin de se faire réchauffer. Il fait froid.
Non, mais c'est quand le français veut te faire croire qu'il est chaleureux.
Non, ça, j'y crois pas. C'est fait.
Mais ça, c'est normal. Pour vous dire, il est arrivé à Paris et c'est pleine grève. Bienvenue en France. C'est pour changer les représentations.
Les déchets ont été ramassés, heureusement. Je suis arrivé.
Ouais, mais... alors que pour le roi Charles, on l'a pas fait, t'as vu? Et on l'a fait pour toi.
Oui,
oh là là.
Je me sens très, très touché. Revenons au sujet. Mais c'est parce que la technologie ne comprend pas, n'a pas la conscience, puis elle n'aura jamais la conscience du bien et du mal. Et celle-ci n'est que programmée a posteriori sur la base d'expériences vécues. Et la limite de ce qu'on peut enseigner en termes de conscience ou de bienveillance est de toute apparence très limitée avec la technologie actuelle. On n'est pas capable d'injecter.
Il y avait des IA pour se confesser. Non, je dis qu'en fait, ils avaient créé une IA pour la confession. Donc, en fait, il valait mieux qu'elle ait conscience du bien et du mal. Mais je vais m'abstenir du débat sur le sujet.
Mais c'est facile, ne font que répondre quelques phrases clichés. Mais bien au-delà de ça, comment on fait pour... Puis ils peuvent pas faire distinguer comme ça. Puis,
oui, mais n'oublie pas que c'est des systèmes d'information qui ne peuvent pas être hackés parce que les voies du bon Dieu sont impénétrables.
Ah, c'est ça, mais ça, c'était quel... C'était dans... c'est un livre de Umberto Eco qui fait référence à ça. Comment tu vas permuter les... Tu vas permuter le nom de Dieu jusqu'à temps que Dieu devienne. Puis en tout cas, bref. On va aller très loin, mais la technologie ne nous a pas amenés jusqu'à Dieu de toute apparence. Même si on a permuté le nom de Dieu de toutes ces formes passées, ne nous a pas amenés dans cet univers-là. Donc, malheureusement, la technologie ne se dirige pas vers ce genre de choses-là. Oui, jeune âge. Mais il demeure qu'on n'a pas de conscience. Encore des humains qui injectent à posteriori la conscience dans la machine. On n'est pas, à mon avis, pas proche d'avoir d'injecter de la conscience. C'est-à-dire, en tant que personne qui aime le foutre le trouble, c'est sûr que dans mes cercles proches, on s'amuse à savoir comment mener l'IA va amener des gens à se suicider, justement l'amenant à conclure que les gens ne servent à rien. Ben, ça peut arriver, là, on l'a vu, ça va nécessairement arriver.
Mais c'est
tranquillement,
arrivé.
C'est arrivé dans un cas particulier, mais de façon massive, de façon importante. Ils vont dire, OK, ben, tu contribues rien à la société, puis tu disparais. On pourrait en arriver là.
Ça veut
gens,
dire que
les
c'est
qui sont
comme
fragiles.
Les managers toxiques.
Oui.
Voilà. Les petits chefs, tu sais, ces chefs toxiques, là,
ils peuvent avoir
nous expliquent qu'on est des sous-mernes.
Ils peuvent avoir un aspect toxique justement pour t'amener vers tomber vers ça. Mais quelqu'un qui est en détresse puis qui se tourne vers un IA pour sortir de sa détresse, puis la réponse qu'il reçoit, c'est exécute donc ce que tu penses. Et ça va arriver.
Donc, encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut en arriver là? C'est ce fameux le souci repose encore une fois sur le manque d'interaction et de lien social des personnes. Quand on en arrive finalement à croire une IA, ne plus avoir cette prise de conscience de ce que...
Mais il y a une certaine dose d'anthropomorphisme aussi qui s'exécute dans ça. Comment on peut réussir à injecter, comme on injecte à l'automobile, comme on injecte à des objets, une personnalité qui est humaine? Comment, dans le fond, on vient injecter la même chose par anthropomorphisme? Parce que c'est une espèce de projection. On va se fâcher contre des voitures, on va se fâcher contre des objets, on va leur donner des intentions. L'objet n'a pas d'intention, comme la machine n'a pas d'intention.
Mais comme tu le disais, Marina, c'est aussi parce que la personne, elle est désociabilisée.
Et c'est elle qui entraîne l'IA, en fait, par cette désociabilisation, justement, et ce manque d'interaction. Et finalement, elles sont en souffrance, ces personnes, quelque part. C'est même pas quelque part, certainement, elles sont en souffrance.
Donc, on peut dire que ce qu'on est en train de faire, puisque là, aujourd'hui, on est en présentiel entre nous sur l'émission, ça veut dire que c'est le lien social, mais avec des interactions humaines réelles, qui peuvent être un pare-feu de ces abus des IA. Et donc, en fait, en gros, ça veut dire qu'il faut prendre des verres entre amis, en fait, c'est ça. Bon, il ne faut pas finir bourré pour autant, hein, mais...
Des verres, là, je l'ai juste vu un verre.
Finalement, les interactions et le lien, c'est ce qui... Voilà, quand on peut travailler sur d'autres thématiques d'un point de vue organisationnel, quand on parle conduite du changement, qu'est-ce qui favorise ça? Mais encore une fois, ce sont les interactions, c'est le lien social, c'est cette espèce de...
Mais en médecine, je ne sais pas en France, mais du moins au Québec, les médecins, quand on trouve dans des périodes difficiles ou des moments difficiles, ils vont demander si on a un réseau pour nous appuyer, puis c'est un élément fondamental. Ces gens qui n'ont pas de réseau vont être encadrés davantage justement d'un point de vue social, justement pour éviter qu'ils périclitent et qu'ils tombent dans quelque chose. Quand on a un réseau social fort, on devient un peu plus
imperméable. C'est ce qu'on a vu avec le confinement et la crise COVID. Oui. C'est le fait de couper les interactions avec des relations réelles entre les gens où on a virtualisé. Mais finalement, on a vu qu'il y a quand même eu de la dépression, que la virtualisation n'a pas remplacé les interactions humaines réelles. Et qu'en fait, l'humain, il ne faut pas oublier que c'est un mammifère qui a besoin de rencontrer d'autres mammifères. Donc, on ne renifle pas le cul, on est d'accord, mais par contre, il faut qu'on boive un coup ensemble.
Nous sommes grégaires. Nous avons besoin de toucher.
On a perdu Marina. Elle s'en est parmi de Didier, culture française. On a des films cultes comme ça chez nous en France. Désolée pour la ref.
Alain Chabat, oui.
Mais bon, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que finalement, là, du fruit de nos échanges, c'est l'humain qui va en fait éviter les déviances et les conséquences néfastes des IA. C'est bien par nos interactions humaines et notre capacité à garder le lien avec l'humain qui fait que finalement, on restera le maillon fort.
Ce qui permet aussi finalement de favoriser une prise de conscience et de... On se transmet aussi des connaissances, des compétences, des vécus, je crois. Et c'est ce qui permet justement de favoriser cette prise de conscience et d'éviter des dérives.
Pour ne plus pas qu'on soit instrumentalisé, parce que les réseaux sociaux nous instrumentalisent comme humains avec des fausses relations, avec des faux amis, avec tout ce fictif.
C'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux en disant, finalement, pour moi, c'était les prémices, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la conséquence des réseaux sociaux, parce qu'on a pu le voir, finalement, on peut avoir des communautés, plusieurs communautés dans une communauté, et des personnes qui sont vraiment en manque et qui sont en souffrance du manque d'interaction, du manque de lien social. Ne serait-ce que quand on observe la manière de réagir de certains usagers des réseaux sociaux. On sent cette souffrance, on sent le fait d'être en marge et vraiment ce manque-là. Mais c'est ce que vient finalement amener l'IA. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui finissent par péter un plomb avec l'usage de l'IA. En tout cas, selon moi, voilà, quand on observe un petit peu tout ça et tout ce cheminement et tout ce développement en matière de technologie, et nous, le fait justement d'interagir, ben on transmet nos connaissances et nos vécus aussi. C'est ce qui nous permet c'est ce qui nous permet effectivement de rester en veille par rapport aux risques justement de toutes ces technologies et de l'IA.
Et de ne pas devenir des enfants sauvages.
Entre autres. Mais on le voit, mais de toute façon, si je me base comme sur des épisodes de Black Mirror, on est souvent dans des contextes isolés où les humains sont seuls Et c'est peut-être un peu ça toute la source du problème, mais en même temps, paradoxe, parce que autant les liens humains sont essentiels, autant les humains sont en train de tomber en amour avec l'intelligence artificielle. Donc, on est dans un contexte de machine, mais qui vient remplacer tout le côté humain qu'on a tant de besoin, que même si les relations virtuelles ne remplissent pas, la relation machine qui commence à venir remplir ce facteur-là, c'est quand même intéressant de voir à quel point on est capable de se projeter pour remplir un vide immense dans ce cas-ci. Là.
Mais en fait, c'est bien là aussi où il faudrait... Parce qu'on va revenir après sur les robots assistants pour les personnes qui sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le fait de pouvoir avoir une interaction. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes, leur seule communication dans la journée, c'est avec leurs animaux de compagnie. Donc, je peux comprendre que derrière... Il y a un enjeu à avoir des IA avec des échanges. Mais c'est là où ça ne doit pas remplacer toute relation humaine. Et en même temps, ça réinterroge aussi sur notre société et notre rapport à la famille, notre rapport aux différentes générations, comment en fait on fait de l'intergénérationnel. Enfin, c'est pour ça que plusieurs fois, c'est pas la première fois que je vais te le dire, mais dès qu'on s'interroge sur les technologies, finalement, on ne s'est jamais autant interrogé sur l'humain, la place de l'humain dans notre société. Et finalement, c'est pour ça que je dis que les philosophes, et puis bah maintenant, d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait la philosophie des nouvelles technologies. Enfin, il y a vraiment des mouvements pour réfléchir quelle est la place de la technologie dans notre société et dans notre rapport et la coopération humain-machine. C'est fondamental de s'interroger en fait sur quelle place laissons-nous à la technologie pour en fait bien concevoir. Sinon derrière je vais mal concevoir, je vais être déviant, je vais pas être carré, je vais pas être dans des attendus sociétaux.
Intéressant, l'IA est dans une zone grise parce qu'on est en train de développer quelque chose qu'on ne comprend même pas soi-même.
Non arrête, l'intelligence c'est la matière grise, là elle est artificielle, elle n'est pas dans une zone grise.
Ouais, mais je parle pas de l'humain comme étant un être intelligent, je parle de l'humain comme étant un être une conscience.
Ah, d'accord.
Puis c'est un peu différent. Puis, on en parlait avant de commencer à enregistrer, tout le fait de. Les humains vont transcender, c'est ça, on a un élément transcendant qui dépasse la machine, qui dépasse tout ça, qui, justement, le contact avec autrui, ça vient justement, c'est dans cette transcendance-là, ça vient dans cet élément non superficiel de comment on établit les liens, comment on construit notre réseau autour de nous, comment on fait avec des gens dans la société. Mais là, on est en train de transformer, on a l'illusion que cette transcendance-là, qui est dans une machine, ce qui est tout à fait faux, elle n'a pas, mais je ne crois qu'elle n'aura jamais cette transcendance-là, cette espèce d'élément de surconscience, peu importe qu'on veut le nommer, qui est propre aux humains, qui nous permet, que les animaux n'ont pas non plus d'ailleurs, là, que cette espèce d'élément que même les philosophes ont encore de la misère, ou même la médecine, personne n'est capable de dire que c'est quoi la conscience, ça vit où? C'est où dans notre tête cet élément-là qu'on considère qui nous distingue les humains des autres? Là, je les ai brisés les deux.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on a perturbé le serveur. Et donc, voilà, c'est... Voilà. Enregistrer une émission dans un bar parisien, c'est assez folklorique. Et en fait, on est sujet d'animation.
Oui. C'est un peu voulu aussi.
Donc, tout ça, c'est pour négocier le dessert. On vous l'a pas dit, mais... Et le but de l'exercice.
Ça l'amène des odeurs aussi dans un endroit public comme ça.
Mais penses-tu qu'il a conscience de ce qu'on est en train d'imaginer dans son dos?
Non.
Et que nos intelligences artificielles et non superficielles sont en train d'imaginer?
Non. Mais de toute façon, on est pas mal rendu au bout. De toute façon, là, le nez est sollicité. Donc on va conclure sur ça. On a fait un grand tour. Donc, mot de la fin.
Eh bien, je tenais à te remercier puisque finalement, nous avons quand même bien abordé la question des interactions humaines réelles et que maintenant, nous allons devoir vous quitter pour faire de l'interaction humaine réelle et continuer dans la convivialité et le charme de la France. Là, il rigole.
Et d'un restaurant parisien.
Merci beaucoup Nicolas, Loïc et Ingrid.